France Inter.
Oula, elle est rare cette piquette aussi là. T'as goûté?
Je peux boire? Je peux goûter?
Non mais c'est un vin terreux. Avec un bouquet que de cerises, c'est une merveille.
CO2, mon amour.
J'ai un oncle qui est viticulteur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour avoir une bonne note dans le guide Parker, les vins doivent avoir une note de vanille et être sucrés et ronds. Et du coup, les gens abandonnent les cépages acidulés. Tout ça pour vendre.
Chaque jour, un peu de la diversité du monde disparaît.
Avec Denis Chessou.
C'est l'inévitable entropie de l'univers.
Sur France Inter.
Et oui, joie, bonheur et les excès humains qui sont derrière. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans CO2 mon amour, la nature qui chuchote à vos oreilles, avec Mélissa et Troyes aujourd'hui à la technique. Notre collaboratrice, c'est Camille Blanès et Xavier Pestugia réalise l'émission. Qui commence par une petite humeur. Jean de La Fontaine nous l'avait pourtant seriné. La grenouille qui n'était pas grosse en tout comme un bœuf, enfla si bien qu'elle creva. Et pour enfler, grossir et déborder de partout, notre belle civilisation en connaît un rayon. Encore que dans le grand siècle que traversa notre fabuliste visionnaire, la planète ne comptait qu'une misérable population de 700 millions d'habitants, chiffre souvent d'ailleurs saboté par des épidémies et des disettes. Cependant, le souvenir des disparitions successives de brillantes civilisations autrement organisées que la nôtre pouvait déjà questionner Aztèques, Incas, Pharaons, Romains antiques, Royaumes d'Afrique et Troie. Tous ce furent des colosses aux pieds d'argile. Au début de l'âge de bronze, Troie, alors on n'est pas dans l'aube en bord de Seine, mais on est en Asie mineure, dans l'ancienne Anatolie, en Turquie. Troie donc prospère, mais à fond, commerce, innovation, sans réseaux sociaux. C'était d'ailleurs avant que Homère, influenceur de son époque, nous rende Troie légendaire dans l'Iliade. Sa richesse, donc, a reposé sur une exploitation incessante, nous rappelle un bon article de Sled.fr, signé de Stéphane Blum. Céramique, poterie, industriel, argile, calcaire, forêt décapitée, etc. Érosion des sols, collines stériles, bref, en 2300 ans avant notre ère, oh là là, bijoux, eh ben, les ambitions économiques de Troie ont dépassé les limites écologiques de son milieu. Bon, vous rajoutez une bonne dose de tension politique, une louche de menaces extérieures, et hop, un joyeux effondrement, blackout. Mais Troie n'a pas disparu. Et après qu'elle ait chu, et ben comme à chaque fois qu'on se prend le mur du réel dans les gencives, elle s'est adaptée à trouver un nouvel équilibre pour un autre millénaire. Il a quand même fallu beaucoup de cas, c'est quand même un paquet d'années pour se remettre. Est-ce que cette leçon de Troie et d'autres civilisations aurait pu nous interroger? Certes, à l'époque, il y avait un peu plus d'égorgeurs de poulets pour scouter l'avenir que d'écologues, scientifiques, biologistes, thésards et post-docs. Bon, nous, on a quand même des billes de pensée qui vont bien, étayées par la science. La quoi? Bah oui, la science. Bah oui, mais ça sert à quoi ça? Pensez donc, on persiste et on signe. À 8 milliards et plus d'humains déboussolés qui ne savent plus devant quel veau d'or se prosterner, eh ben on continue. Et que nous disent aussi donc les peuples premiers donc qui arrivent encore à survivre? Il y en a encore quelques-uns. Ben, ceux qui restent nous disent d'arracher à une terre bientôt invivable nos fameuses racines mentales, de nous mettre enfin en mouvement et de renverser une approche étroite, impériale, consumériste de notre rapport à la planète avant qu'elle ne nous explose gentiment à la gueule. Alors, nous avons un peu partout des signaux analogues à ceux de Troie, mais l'illusion de la croissance infinie est trop tentante. Et Jane Goodall, formidable éthologue engagée avec ses copains chimpanzés, ne dirait pas autre chose en se grattant la tête face au délire du monde. Que faisons-nous du bien? À part ça, comment va Cézanne? Mais oui, Paul, eh ben, il cartonne au musée Granet d'Aix-en-Provence, au Jas de Bouffan. Il nous attend dans ce hors-série, comme Vinci, Van Gogh, Rosa, Bonheur, Eugène Boudin et la nature, à retrouver en podcast sur l'application Radio France. Donc, on va partir avec Cézanne, Cézanne et la nature. Et juste avant, ben, si on l'attend, allez, cette musique.
Do what you wanna do.
C'est Robert Finlay sur France Inter et c'est évidemment de la qualité choisie par Thierry Lupin, notre programmateur. Allez, on part à Aix. Où est-il, Cézanne ? Allez, par là-bas.
C'est quand même un rapport à la nature, Cézanne, qui est viscéralement celle qui lui a été donnée autour d'Aix-en-Provence, dans ce pays d'Aix. On va aller jusqu'à l'Estac, jusqu'à Gardanne pour le, géographiquement le délimiter. Mais c'est assez restreint. Ça lui suffira parce qu'il trouvera toute la matière qu'il a besoin d'avoir. Puis il y a Saint-Victor tout d'un coup qui va émerger sous ses yeux, même s'il l'a vu pendant longtemps sans encore la dessiner et la peindre. Oui, c'est un homme très méditatif et très retiré en lui-même quand il peint. Il n'y a plus que ça. Il faut que rien ne le distrait du motif qu'il a devant lui et qu'il reprend. Mais bon, c'est un homme quand même, il a été très turbulent. Il a été un jeune garçon. Il s'est baladé avec Zola dans la garrigue. Ils ont fait les 400 coups. Il prenait des poissons dans les trous d'eau. Il récitait du Musset, du Victor Hugo, du Vigny, peut-être un peu de Baudelaire. Rapport de Cézanne à la nature, c'est quand même marqué par une intensité de vie. Je veux dire, il a reçu la Provence, il l'a reçu dans ses jambes. C'est vraiment un très, très grand marcheur. Il a pris la Provence dans les jambes, dans son physique, dans son corps. Puis après, quand il a moins marché, il a continué à marcher.
Cézanne décriée, Cézanne piétinée, Cézanne ignorée, mais aujourd'hui, Cézanne glorifiée, réhabilitée par sa ville d'Aix-en-Provence, qui a quand même tourné pratiquement le dos une trentaine d'années après sa mort. Aujourd'hui, il se décline de la gare TGV jusqu'au 7 de table, et c'est tant mieux. C'est cela que d'avoir eu un temps d'avance et orienté l'histoire de la peinture en cassant les codes. Alors même si leurs chemins de génie s'écartèrent, Zola, donc, qui a été défendu au lycée par Paul, restera son ami de toujours. Et au fond de lui, c'est la Provence et sa nature donc, qui appellent Cézanne. Quand on est né là-bas, c'est foutu. Rien ne vous dit plus, nous disait Cézanne. Et depuis ses balades adolescentes autour d'Aix, ce solitaire dira « Les choses sans bornes de nature m'attirent ». Alors là, vous avez entendu Denis Coutagne, président de la société Paul Cézanne. Il y aura Bruno Elie, conservateur et directeur du musée Granet. Il vous reste 8 jours et heureusement, il y a des nocturnes. Exposition exceptionnelle, plein de tableaux de Cézanne qui viennent vraiment du monde entier. Ça ne va pas se reproduire tout de suite. Allez-y, je sais qu'il y a plein de monde, mais c'est extraordinaire. Alors, où est-il ? Ah, il est là. Il peint dans le parc du Jas de Bouffan, à quelques kilomètres du cours Mirabeau, jadis cerné par une quinzaine d'hectares de vignes et d'oliviers, puis un bassin. Bon, maintenant, il y a des rocades et des immeubles. Il est là. Je vais peut-être pas l'interviewer parce que notre homme ne voulait pas forcément être dérangé. On laisse Denis Coutagne nous en parler.
Il faut dire que Cézanne, au tout début quand même, quand il peint, c'est pas trop la nature hein, qui est son... Enfin, la nature au sens des arbres, des oiseaux, des cours d'eau, des rochers. C'est un homme d'atelier, c'est un homme qui va faire ici, dans le Jas de Bouffan, des peintures sur les murs. Il faudra qu'il aille à Paris, qu'il découvre Monet, qu'il découvre Pissarro, qu'il découvre...
Pissarro, quand même important, parce très que quand important. Même toute la fragmentation, donc les touches de l'impressionnisme, c'est quand même Pissarro qui va lui distiller tout ça. Il lui dit, va éclairer ta palette.
Voilà, c'est donc en étant avec Pissarro à Auvers-sur-Oise et Pontoise, qu'il sort de lui-même et qu'il découvre la peinture de paysage, si je puis dire, la peinture sur nature. Il dira qu'il veut faire du poussin sur nature. Ça veut dire qu'il faut quand même que ce soit une œuvre pensée, une œuvre d'atelier, mais en même temps sur nature. Et à un moment donné, il se dit, mais la Sainte Victoire de tous mes maîtres, de tous ceux que j'ai aimés en peinture, elle est là, elle est sous mes yeux et je ne le savais pas. Et tout d'un coup, tac.
Je me rappelle particulièrement bien de Cézanne.
Jean Renoir.
Cézanne avait un atelier. Je revois la rue et je revois l'escalier, la maison, très bien. Et je revois le jeune Paul Cézanne, qui est devenu mon ami, enfin qui était mon très grand ami. Ce qui m'avait frappé, c'était le côté broussailleux de son visage. Il semblait qu'il n'y avait que des poils, un peu comme un chien barbé.
Bruno et Lille, nous sommes donc au Jas de Bouffan. Donc son père, qui n'était pas exactement pour le boulot de peintre de son fils, ça on le sait bien, notre chapelier qui avait réussi comme banquier, donc va acheter cette demeure avec cette ferme qui est à côté. Et là, il a une vingtaine d'années. Et cet amour-là, parce qu'on peut vraiment parler de ça, ça a duré une quarantaine d'années. Racontez-nous ce lieu.
C'est un lieu qui représente un port d'attache pour Cézanne. Il est à la fois le lieu où il va venir se retrouver, quand déçu, notamment par Paris. Quand Paris vraiment est absolument terrifiant pour lui en matière de critique, il revient ici retrouver des forces, en fait, au Jas de Bouffan. Et en plus, le Jas de Bouffan, c'est un lieu d'inspiration. C'est là notamment qu'il va faire des grands paysages. C'est là notamment qu'il fera ensuite les joueurs de cartes, les paysans, les fumeurs dans la Bastide et dans son atelier, vraisemblablement, donc du deuxième étage. Et puis, c'est un lieu qui est pour lui toujours ce moment, quand il revient en Provence, il vient au Jas de Bouffan. Parce que le Jas de Bouffan, de toute la vie de Cézanne, qui a été à la fois un grand marcheur, comme on le dit souvent, mais aussi quelqu'un qui a été très instable. Cézanne est toujours dans un endroit, et quand il est dans un endroit, il a envie d'être dans un autre endroit. Et puis quand il y est, il a envie de revenir là où il était. C'est vraiment ça le caractère de Cézanne. Donc en réalité, il va faire des allers-retours très fréquents entre Paris et la Provence. Quand il est en Provence, il est au Jas de Bouffan, et puis il va à l'Estac, et de l'Estac, il revient, mais il revient toujours au Jas de Bouffan. C'est un centre vital pour lui, d'une certaine façon, parce que dans sa période de jeunesse, il va investir le Grand Salon, il va peindre pendant 10 ans, c'est long 10 ans, sur les murs du Grand Salon. Ensuite, il sortira, il fera notamment tout le parc, les environs, la campagne. Et puis ensuite, il retournera plutôt dans les années 1890 pour faire ses fameux joueurs de cartes, par exemple, ses paysans et ses fumeurs.
Le grand salon dans le Jas de Bouffan.
Waouh !
Bon, qu'est-ce qui vous touche, vous aussi, Denis Coutagne, ici, quand vous rentrez dans ce lieu que vous connaissez par cœur ?
Ce qui est étonnant, c'est que le père de Cézanne dit à son fils : je veux faire de toi un banquier.
Tu lis mes lettres maintenant ?
La dernière est passionnante. Je vais démontrer.
Oh, moi, si je reste ici, l'alcoolique, pire ! Dans votre banque, je finirai par vous ruiner.
Je suis allé le voir, moi, ton monsieur Gilbert. Il est de mon avis.
C'est un con. Il a du jugement de professeur.
Et tu crois qu'il pense autrement à Paris ?
Et Cézanne écrit des alexandrins. Son père lui oblige à faire du droit. Hélas, j'ai pris du droit la route tortueuse. J'ai pris n'est pas le mot de prendre, on m'a forcé. Le droit, l'horrible droit d'embages enlacés rendra pendant 3 ans mon existence affreuse. Et en même temps, son père lui laisse la liberté des murs qui étaient comme ça, vraiment. Et il lui laisse tout le grand salon. C'est quand même la pièce majeure de la Bastide. C'est quand même, il vient de l'acheter. Donc, il laisse son fils peindre, j'allais dire, librement. Son fils y peint des choses gentilles au début, les 4 saisons. Et il fait une œuvre. Alors, qui est intéressante parce que Bon, elle est très jeune. Et en même temps, il montre sa pugnacité, son opiniâtreté. Il vient repeindre par-dessus. Alors, avant qu'il repeigne par-dessus, il avait peint pratiquement aussi, ou fait peindre, il y avait tous les murs. Et c'était un décor palatial. Et au milieu, il installe son père. Donc, lui qui avait obligé son fils à faire du droit, Cézanne le met au milieu du grand salon, comme le pater familias, comme l'empereur. Enfin bon, il est sur une chaise, il est, etc. Il lit le journal, c'est toujours l'attitude où il posait le mieux. Et il pose ce pater au milieu des quatre saisons, des quatre jeunes filles. N'oubliez pas qu'il y a cette photo à la fin de la vie de Cézanne, à l'atelier, où c'est Cézanne qui est pris en photographie, entouré de nymphes aussi, etc., qui sont les baigneuses. Donc le père et le fils, j'allais dire, c'est le même caractère, c'est la même histoire. Cézanne le sait. Et Cézanne peut être, en peignant ici, dire « Papa, tu as acheté la Bastide, moi je vais te montrer comment je veux être peintre, et dans cette Bastide que tu as achetée, que tu me laisses peindre, je vais te prouver que je suis le peintre à venir. »
Comment tu l'appelles déjà, ton tableau ?
Plein air.
C'est trop galvaudé. Ça ne veut plus rien dire, plein air. Et puis Manet l'a déjà fait.
Non, fous-moi la paix avec Manet. Plein air, ça veut dire dehors. Ça veut dire sensation et émotion, bordel de merde. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on a marre des tableaux inventés dans des ateliers où le soleil n'entre jamais. Ça veut dire des fleurs avec des odeurs, des corps avec des sexes, des arbres avec du vent. Voilà ce que ça veut dire, nom de Dieu.
Alors là, on marche entre une superbe allée de platanes, mais ceux-là, en fait, il ne les a pas connus parce qu'ils ont été plantés quasiment donc après sa mort. En revanche,
Bruno Elie,
il y a les marronniers. Les marronniers, puis aussi le pin d'Alep. Ça fait partie quand même des grands personnages, j'allais dire, de Cézanne. Mais qu'est-ce que l'on peut dire par rapport à ces arbres ?
Tout peintre a son arbre. Monet, c'est les peupliers. Ça bouge un peu avec le vent, il fait des rangées de peupliers sur les bords des rivières. Ça lui allait très bien. Van Gogh, c'est l'olivier. Cézanne, s'il fallait un arbre, lui invente un arbre, effectivement, c'est le pin d'Alep ou c'est les marronniers. Là, il y avait une grande allée de marronniers, ça correspondait un petit peu à une tradition provençale, quand on rentrait dans des propriétés, d'avoir ce type de grande allée. Il l'a peint très tôt. Quand il revient au jazz après son expérience, on va dire, impressionniste avec Pissarro, même un peu avant, une des premières choses qu'il fait vers 1870, donc il sort à peine de ces grands panneaux qu'il a peints sur les murs, il sort. Là, la Bastide, il y a l'allée de marronnier, il se met devant et il la peint. Et il va la peindre plusieurs fois. Et puis après, il va peindre quelquefois uniquement les troncs. Il peint des structures, il peint des piliers qui soutiennent le ciel, qui sont enracinés dans la terre, c'est lui. Et en même temps, il y a des arabesques, il y a des musicalités, il y a des rythmes. C'est pas seulement un arbre qui est dans la nature, c'est l'arbre qui donne naissance à la nature.
Il y a cet autre arbre, là, on l'a à peine évoqué. Donc, c'est le pin d'Alep. Alors, celui-là, il est très sympa parce que d'abord, il garde ses plumes, si j'ose dire, toute l'année. Et puis, j'ai presque dire qu'il a une torsion qui est idéale pour lui.
Oui, c'est-à-dire qu'il trouve dans sa Provence natale de quoi satisfaire sa manière de peindre. C'est-à-dire que s'il avait été un peintre dans la rapidité de l'exécution, c'eût été autre chose. Mais comme lui, il travaille très lentement, horriblement lentement. Ouais. Émile Bernard, qui est un de ses jeunes admirateurs, disait qu'à la fin de ses vies, il pouvait mettre 5 minutes entre chaque touche. Ça fait des tableaux très très longs à faire. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que l'arbre qui garde justement sa verdeur est très important pour Cézanne, parce qu'il n'est pas à une saison près pour finir son tableau. Alors que quand on est avec les impressionnistes, que l'on doit capter un effet de lumière sur un feuillage, évidemment, si on ne travaille pas vite, on ne capte plus rien. Donc Cézanne, lui, a une temporalité complètement différente. Il n'est pas impressionniste, en fait. Cézanne est impressionniste historiquement entre 1870 et 1880, c'est-à-dire une dizaine d'années. Mais en réalité, avant, il n'est pas impressionniste, après, il n'est plus impressionniste. Et même dans sa période impressionniste, on peut dire qu'il n'a pas la petite touche en virgule de Monet, de Renoir, il a sa manière d'être impressionniste à lui. C'est-à-dire qu'il a éclairci sa palette, c'est-à-dire qu'à la fois il est beaucoup plus fluide qu'il ne l'a été auparavant dans sa période de jeunesse, et quand il peint les arbres, il y a quelque chose de capital, et on le voit très bien quand on est ici à côté donc, de la Bastide, et ses branches qui dépassent ici à droite de la Bastide, c'est ondulatoire. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement ondulatoire dans les arbres de Cézanne. On ne le remarque pas toujours. On pense toujours au classicisme, on pense toujours à la structuration, et on a raison, du tableau de Cézanne. Mais il faut y voir aussi ce mouvement. Ce mouvement, cette dynamique que les arbres inscrivent dans la peinture de Cézanne.
On sera dans un bordel encore, en pleine forêt, pour attraper une pneumonie.
Voir là-bas, c'est cochon.
Il n'y a pas de contour. Il est myope, ce peintre.
Quelle honte. On n'a jamais vu ça nulle part.
Si, monsieur, on voit ça au Louvre, nom de Dieu. Et si t'as jamais vu de femme nue, eh ben regarde, petit con, merci, mon...
Oh, 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 o
Rappelez-nous quand même en quoi il est précurseur, Bruno Elie, donc on va dire de la peinture moderne, bon je mets des guillemets sur le mot moderne. Cet homme-là va bouleverser donc les perspectives, il va couper les lignes de fuite, donc tout ça, ça choque.
C'est provocateur. C'est-à-dire que Cézanne, dans sa période de jeunesse, et on le voit bien dans la correspondance avec Zola, puisqu'il se livre cette amitié profonde au Collège Bourbon, ils sont adolescents, et le mot qui revient toujours, c'est monstruosité, anomalie. C'est-à-dire qu'il y a la volonté chez ces deux jeunes gens de choquer, de bouleverser les choses. Et très jeune, c'est-à-dire 16-17 ans. Et c'est vrai que Cézanne va continuer toute sa vie d'être en avant sur son temps. Quand il aura compris qu'on ne peut plus peindre de la même manière avant et après la photographie, parce que fondamentalement Cézanne naît en 1839 et qu'il va naître en même temps ou presque que le médium photographique, il va grandir avec. Et donc il est de cette génération, et la génération suivante, c'est d'ailleurs celle de Picasso, celle de Matisse, qui vont se positionner de façon radicalement différente de la peinture photographique. Oui. On ne peut plus faire de la peinture photographique si on est vraiment peintre, en tout cas c'est leur conviction. Pour lui, la peinture ne peut être que peinture, et elle n'est que peinture. Ça c'est ce qui fait cette modernité incroyable.
Cézanne, c'est une espèce de météore, on ne sait pas d'où il vient. Une fois qu'il est passé, le météore est tombé, et qu'est-ce qu'on fait avec ? Toute la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec Cézanne une fois que Cézanne est mort, enfin même avant sa mort. Mais
c'est pour ça que c'est génial, parce qu'il y a sans arrêt à découvrir.
Voilà. Absolument.
Vous savez quoi ? La carrière d'ocre de Bibémus et la victoire, la sainte victoire enchantée, nous attendent.
Silence dans la maison, silence sur la colline, c'est parfum qu'on devine. C'est l'odeur de saison, mais voilà l'homme sous ce chapeau de paille, des taches plein sa blouse et sa barbe en bataille. Cézanne peint, laisse s'accomplir la magie de ses mains.
CO2 Mon Amour avec Denis Chessou sur France Inter.
Alors nous quittons le jazz de Bouffant et nous retrouvons donc Bruno Elie, notre directeur de ce musée Granet. Eh bien, un petit peu plus loin, allez, quelques kilomètres. Changement de lieu. Et là, on se retrouve avec vous, Bruno Elie, dans les carrières de Bibémus. Lieu incroyable, carrière, on voit de l'ocre, évidemment énormément de végétation, et donc le lien avec Cézanne.
C'est que Cézanne a choisi de venir y travailler, de 1890 jusqu'à vers 1900 à peu près, c'est-à-dire une bonne dizaine d'années, et qu'il a produit là parmi quelques-uns de ses grands chefs-d'œuvre, avec notamment un des tableaux que l'on a dans l'exposition, qui vient du musée de Essen en Allemagne, et qui représente justement cette carrière dans toute la magnificence de son ocre, puisque évidemment, ce sont des pierres de couleur ocre, de toutes les teintes ocre, c'est-à-dire du plus jaune jusqu'au plus rose aussi, en fonction de la veine de cette carrière, et qui ont intéressé vraiment Cézanne, c'est-à-dire ses ocres étaient fondamentaux à ce moment-là dans sa recherche. Il a beaucoup travaillé avec l'ocre, c'était une de ses couleurs fétiches dans cette simplification de sa palette qu'il va développer dans sa période de maturité. Et ici, donc, il trouvait vraiment de quoi épanouir son art, avec notamment les couleurs, donc l'ocre, évidemment.
Et les formes.
Et surtout les formes, c'est-à-dire ces formes géométriques que finalement la main de l'homme avait pu produire quand il avait taillé le carrier en question, les blocs de pierre, pour construire la ville d'Aix.
C'est du Aix en négatif, quoi. Enfin, c'est un peu ça.
C'est la ville d'Aix en creux. C'est-à-dire que chaque bloc qui a été extrait de cette carrière a servi depuis l'Antiquité jusqu'au XIXe siècle à construire la ville d'Aix, la vieille ville d'Aix, évidemment.
Alors ça, pour un Cézanne, c'est extraordinaire. Et puis la forme, je vais dire, on a presque des cubes, hein,
c'est donc ça.
Cubisme.
Absolument, c'est-à-dire que l'on est dans cette géométrisation subtile de la nature. Cézanne qui disait qu'il fallait savoir résoudre la nature à la sphère, au cylindre et au cône. Ici donc, on a cette forme de géométrisation qui s'offre naturellement au regard de Cézanne à son époque et qui est encore aujourd'hui parfaitement repérable, même si à l'époque c'est beaucoup plus minéral à l'époque de Cézanne. Là, la végétation a beaucoup gagné, même si régulièrement on dégage beaucoup de cette végétation pour laisser encore abordables et visibles les roches de Cézanne.
Alors, ce qui est dingue, là, Bruno, c'est qu'en fait, on a ce grand bloc, on a l'impression qu'il est en déséquilibre, et puis que les deux arbres aussi sur le côté ramènent une forme d'équilibre. C'est équilibre, déséquilibre, ça a toujours été effectivement le boulot de Cézanne. Enfin.
Oui, parce que pour lui, la peinture ne peut pas être à l'équerre et à la règle, voilà. Ou au compas. La nature est quelque chose qu'il veut non pas copier. D'ailleurs, il dit que je ne veux jamais pas copier la nature. Je veux trouver une harmonie parallèle à la nature. C'est son expression. Elle est belle. Ça veut dire qu'il veut trouver un cheminement qui ressemble à celui de la nature dans son expression de peintre. Et donc, quand il trouve dans la nature des équilibres ou des déséquilibres qui s'équilibrent les uns les autres, eh bien, évidemment, ça le ravit. Et c'est ce qu'il va traduire aussi dans ses tableaux.
Nous sommes là devant le merveilleux portrait de Cézanne par lui-même, véritable chef-d'œuvre que j'ai la joie de posséder.
Sacha Guitry.
Il est toujours absurde de commenter les peintres. Et quand il s'agit de celui-là, le plus grand entre les plus grands, ça devient une sorte de sacrilège. Nous avons en lui le plus peintre de tous les peintres. Un peintre qui jamais n'embarrassa son œuvre de préoccupations étrangères à la peinture, qui répudia comme une malhonnêteté tous les vains et faciles ornements, tous les escamotages, tous les trucages, et qui respecta la nature jusqu'au point de paraître comme elle quelquefois enfantin, naïf et impuissant.
Voilà, et ça c'est typique, avec ses cavités, ses petites crottes. Voilà.
C'est pas mal pour les oiseaux là aussi, dedans. Pour les intéresser, ça, les chauves-souris, ça va être bien là.
C'est idéal pour elles.
Ce qui est toujours aussi très intéressant chez Cézanne, c'est que justement, ces tableaux sont peu habités. Ils ne sont pas d'ailleurs habités. Mais en revanche, il y a toujours la trace du travail ou de la présence humaine.
Oui, ça c'est vraiment une chose à observer chez lui. Il ne représente pas, dans ses paysages, l'homme, et ni l'animal d'ailleurs non plus. Et en même temps, l'homme est toujours présent de façon sous-jacente. Quand c'est un village, eh bien c'est la trace de l'homme. Quand c'est une ferme, l'homme y habite. Quand c'est des carrières que l'homme a taillées, l'homme est toujours présent.
Oh. Elle est là, notre belle Sainte Victoire. On dit la Sainte hein, pour un certain nombre de, d'Aixoises et d'Aixois. Le Tolonnais là, qui est à nos pieds, et donc bah, Cézanne que l'on voit avec son chevalet. Mmh. Est-ce qu'il allait peindre vraiment très près, non? Il s'arrêtait vers le Tolonnais à peu près
ou... Oui, il restait plutôt du côté du Tolonnais pour peindre la montagne Sainte-Victoire. Il ne s'est jamais mis totalement au pied de la montagne. D'abord, elle était trop massive et puis on ne la voyait pas bien. Donc il lui fallut du recul. Et ce recul, il va le trouver d'abord dès l'origine, quand il va faire d'abord la vallée de l'Arc, c'est-à-dire une vue lointaine. Et puis dans ce lointain, une montagne Sainte-Victoire qui va émerger petit à petit. Et puis ensuite, il y aura une phase où il va se rapprocher de la montagne et venir vers le Tolonnais. Et c'est là donc où nous sommes et où il va représenter très souvent cette montagne, parfois avec le motif de la carrière de Bubémus, parfois toute seule, et qui est une façon de se rapprocher vraiment du motif. Et puis ensuite, cette dernière série qu'il fera à la fin de sa vie, ce sera au-dessus du chemin des Lauves, au-dessus de l'atelier, c'est-à-dire sur cette colline de la Marguerite qui donne cette forme triangulaire, beaucoup plus simplifiée encore que celle que nous avons ici quand on est au Tolonnais.
Profondément, qu'est-ce qu'elle représente, cette Sainte Victoire, pour un homme comme Cézanne ?
On peut dire que la montagne Sainte Victoire, pour Cézanne, ne va pas lui apparaître immédiatement. Il y a d'abord des premières incursions de ce thème de temps en temps dans son œuvre de jeunesse. Mais c'est assez faible en réalité. Et il attend d'avoir atteint la quarantaine, c'est-à-dire vraiment sa période de maturité, pour aborder le thème de la montagne Sainte-Victoire. Et à ce moment-là, une montagne générique, un petit peu plateau, un petit peu incertaine, va devenir de plus en plus précise. Il va se l'approprier. Il va la représenter de plus en plus conforme à ce qu'elle nous apparaît aujourd'hui. Parce qu'il avait besoin d'un temps, parfois un temps très très long, pour s'approprier un motif. Et le motif de Sainte-Victoire, c'est vraiment le motif de la maturité et des dernières années. Ensuite, plastiquement, elle a une forme d'abord étonnante. C'est une émergence dans le paysage. On la voit de partout, dans tout le paysage du Pays d'Aix. Et en plus de ça, elle change de couleur à chaque heure, à chaque moment, dans chaque lumière, dans chaque période de l'année aussi. Et finalement, quand on regarde un tableau de Cézanne, on a l'impression qu'il a cumulé plusieurs perceptions de cette montagne. C'est-à-dire que c'est pas la perception d'un jour à une heure donnée, c'est cette montagne éternelle donc parce qu'elle nous montre toutes ses facettes, facette au plein sens du terme, même pas du facette du cubisme, et d'avoir effectivement dans cette pluralité de la longueur du temps que Cézanne met à faire ses tableaux, cette organisation particulière de la montagne de Cézanne. Elle est à la fois très fluide et en même temps d'une massivité, d'une présence tout à fait étonnante.
Regardez cette montagne de Sainte-Victoire. N'est-elle pas une ruine? C'est-à-dire une image de tous les accidents survenus depuis l'origine. Où trouver la nature dans son ensemble divin, alors que le chaos a passé sur elle? Tu te dressais chaque jour devant moi, comme un éternel défi. Toujours la même, toujours différente. Suivant les heures, suivant les saisons, tes couleurs variées. Tes versants infiniment timides un jour de brume devenaient passionnés par un jour d'été. Ma palette pourtant riche se trouvait limitée devant toi. Victoire, j'ai fini par te tutoyer. Paul Cézanne.
Alors, c'est pas du tout le point le plus haut de la Provence, loin de là, mais c'est le plus escarpé peut-être. 1011 mètres. En réalité, c'est une petite montagne, mais qui est devenue aujourd'hui une montagne emblématique d'abord de Cézanne, bien sûr, mais c'est surtout une montagne qui est maintenant connue dans le monde entier. C'est-à-dire que le regard d'un seul homme, celui d'un artiste qui s'appelle Paul Cézanne, a changé le regard de tout le monde. C'est-à-dire qu'il en a fait une montagne universelle.
Et alors, il la peignait très souvent avec des notes violettes.
Oui, parce que souvent, ce côté violet, ou outre-mer, parfois aussi, plus encore que violet, fait partie de cette manière de donner du relief à sa peinture. Et à la fin de sa vie, Cézanne travaille beaucoup par plan coloré. Et quand on regarde le plan coloré de Cézanne, on se dit qu'il y a quelque chose de trop structuré, c'est-à-dire qui tient trop en matière de construction et qui apparaît trop comme une construction. Et donc, pour redonner une forme de vitalité, d'expression vitale, il va réintroduire ce trait d'outre-mer autour notamment de la silhouette. Il l'a fait vibrer, il l'a fait exister d'une autre manière, peut-être pas aussi vivante que la peinture impressionniste aurait pu le faire en termes d'impression, mais pour lui redonner cette agilité qu'elle aurait peut-être perdue à être trop construite, trop massive. Et en tout cas, ce qui est important pour Cézanne, me semble-t-il, c'est qu'elle représente cette montagne Sainte-Victoire quelque chose, mais pas quelque chose qui a un trait direct avec la religion. Parce qu'on a beau chercher dans toutes les versions, à peu près 80 versions de Sainte-Victoire de Cézanne, il n'y a jamais la croix au sommet. Et donc, de ce point de vue-là, Cézanne va, là aussi, simplifier dans sa peinture le motif en enlevant la croix. Elle n'est jamais présente. Et quand de temps en temps il veut introduire une forme de spiritualité, il ne va pas peindre le sommet de la montagne. Et il laisse le blanc de la toile.
Il ne meurt pas ici parce qu'il va mourir donc un 22 octobre 1906. Mais le 15 octobre, il se fait attraper par un orage.
Oui, c'est ça, on le ramasse sur le bord du chemin où il a posé son chevalet pour peindre. Un orage est arrivé, il a eu une syncope, il est tombé évanoui. On va le ramener chez lui, alors l'image est très belle, je ne sais pas si elle est vraie. On nous dit que c'est une charrette de blanchisseur, c'est-à-dire remplie de toile blanche, qui va le recueillir et qui va le ramener chez lui, mourant d'ailleurs, agonisant, puisqu'il ne se relèvera pas de cette attaque. Et il va donc encore continuer à vivre quelques jours. Et pendant ces quelques jours, il fera encore le portrait du jardinier Vallier.
Pour vous, qui était Paul Cézanne?
Marie Gasquet, amie de Paul Cézanne.
J'ai connu Cézanne, j'étais une toute jeune femme, l'année même de mon mariage, il y a 61 ans. Cézanne était né en 39, il était près de la soixantaine, c'est-à-dire en pleine possession de son art et en pleine possession de sa souffrance. C'était un persécuté, ça. C'était une sorte de martyr. Il était arrivé à un degré de sensibilité tel, n'est-ce pas, que la moindre des choses le blessait, le faisait souffrir, le torturait, n'est-ce pas. Et Dieu sait si on en a abusé autour de lui. Il a été terriblement incompris, et cette incompréhension, il a encore grossi, n'est-ce pas. Il était arrivé vraiment à être un martyr, je ne vois pas d'autre mot.
On se retourne, on a les premières lumières d'Aix-en-Provence qui scintillent. Et quand même, parlons de cette relation, parce qu'on sait très bien que c'était quand même extrêmement compliqué. Et donc on a coutume de dire que la ville de Cézanne a été avant tout la ville sans Cézanne.
Oui, parce que de son vivant, Cézanne n'a pas été reconnu dans sa ville natale comme partout ailleurs. Aix n'a pas pu, plus ou moins compris que les autres, mais c'est vrai que Aix n'a pas compris Cézanne. Et il a fallu beaucoup de temps pour que Aix, de la ville sans Cézanne, puisqu'il n'y avait aucune œuvre de Cézanne dans le musée de sa ville natale, par exemple. Et donc, ce qui se passe, c'est que Cézanne va être reconnu, mais bien après sa mort, évidemment, y compris à Aix-en-Provence, et surtout trop tard. Donc, il faut attendre 1984 pour que 8 peintures à l'huile soient mises en dépôt par l'État, et qui sont maintenant encore en place pour parler de Cézanne dans le musée de sa ville natale.
Dans le musée Granet. Eh bien, grand merci Bruno Ely, puis à bientôt.
Et grand merci Denis.
Bruno Ely, que l'on peut lire dans un ouvrage qui vient de sortir, Les joueurs de cartes. Merci aussi à Denis Coutagne et merci au pays d'Aix Tourisme qui nous a aidés pour ce reportage. Alors évidemment, allez-y, jusqu'au 12 octobre, donc, voir cette exposition à Aix-en-Provence. Et puis je vous signale quand même le Télérama en partenariat avec France Inter, Cézanne, une histoire aixoise. La semaine prochaine, tenez un autre peintre, Jean-Michel Beignet, que vous ne connaissez pas forcément, Charente-Maritime, qui a donné 100 hectares, le domaine de la maçonne à la nature. Je vous retrouve sur Instagram, LinkedIn, Blue Sky, l'application Radio France. Je vous souhaite une très bonne fin de journée avec plein de couleurs dans les yeux.